La libre antenne d'Europe 1.
Et pour commencer cette émission, nous accueillons Lola au 3921. Bonsoir Lola.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. Quel âge avez-vous Lola?
Bonsoir Olivier.
Et d'où nous appelez-vous?
Quelle idée de demander l'âge à une femme, Olivier. Vous savez très bien que les femmes ont horreur de répondre à ces
Elles ne sont
questions.
Pas obligées de répondre. Si vous n'avez
pas envie
de...
Je vous laisse deviner. À la fin, je vous reposerai moi la question de savoir quel âge vous me donnez.
D'accord, à la fin. D'accord, pas de problème.
Ok.
Vous nous appelez
d'où
Lola?
Je vous appelle d'Alsace, de Strasbourg précisément.
D'accord.
Voilà, je suis dans l'Est depuis pas mal d'années, mais en fait, j'ai un petit parcours de vie assez intéressant, je dirais, sans être prétentieuse, mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, c'est parce que j'ai toute ma vie positivée. Ça, c'est, je crois, le premier élément de base qui permet de ne pas craquer quand il y a des difficultés, et encore moins depuis le virus.
D'accord.
Ça veut dire que...
Et alors, voilà. Ça se traduit de quelle manière?
Eh bien, ça se traduit que je suis, par exemple, on va dire, quelqu'un qui n'est pas venu désirer déjà, pas de connaissance de parents, papa, maman. J'ai grandi en communauté, dans un couvent, avec des religieuses qui étaient très sévères, puisque ce n'était pas il y a 20 ans, pas il y a 30 ans, mais je ne dirais pas plus. Et malgré ce bagage déjà un peu difficile au départ, j'ai construit ma vie avec beaucoup de personnes que j'ai rencontrées sur ma route qui m'ont aidée. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous aider. Et que les choses qu'on vit dans la vie, je pense moi, sont écrites. Ce n'est pas des hasards. Le hasard, moi, je n'y crois pas du tout. Je pense qu'il y a des choses qui se produisent dans la vie et elles se produisent parce qu'elles doivent se réaliser. Et c'est quand on les réalise et quand on les subit aussi, qu'on évolue et qu'on a, on a après des, on est beaucoup plus solide. On ne craque pas dans des soirées blues ou dans des moments de détresse. On essaie toujours de regarder de l'avant. Le passé, il est derrière. De toute façon, on ne fera plus rien, c'est fait. Le présent est important puisqu'on le vit. Et le futur, c'est des projets. Il faut toujours avoir des projets. Ça, c'est un peu mon leitmotiv, on va dire. Ma philosophie de vie.
Vous avez toujours eu des projets, donc ?
J'ai toujours eu des projets. J'ai toujours eu des projets. Et même quand les projets étaient ternis par les nuages, par les orages, par toutes les intempéries, par les embûches, eh bien, même là, j'ai toujours eu de la chance, un peu comme un chat qui tombe sur ses quatre pattes. Quand on est au fond du gouffre, on est en bas, et on n'a plus qu'une solution, c'est de remonter.
Très bien.
Voilà.
Très bien.
Voilà.
Et donc, depuis le début, vous êtes dans le positif, donc.
Oui, oui, parce que de couvent en famille d'accueil, à 16 ans, j'ai pris mon sac à dos et j'ai fait ma route. Donc, j'ai un petit peu bourlingué en faisant bien sûr des boulots à chaque fois évolutifs. J'ai démarré en tant qu'employée de maison dans une famille bourgeoise qui m'a beaucoup appris comment se tenir à table dans un restaurant 3 étoiles, par exemple. Ça, je sais faire, vous voyez, alors que je sortais vraiment d'une enfance pas facile du tout à vivre, avec beaucoup de bas et beaucoup plus de bas que de hauts. Je ne savais pas ce qui m'attendait du tout, mais je me suis accrochée à chaque fois. Et j'ai eu de la chance, j'ai toujours trouvé du boulot. Parce que je m'intéresse à plein de choses, parce que les déplacements ne me dérangeaient pas, parce que justement quand on se déplace, eh bien on s'enrichit aussi. Ça, je pense que vous le savez, tout le monde le sait. Les pays, j'ai pu voyager pas mal dans 3 pays dont mes parents étaient originaires. Ils se sont malgré tout mariés en France. C'est ça qui est étonnant. Moi, je suis née en France, mais fabriquée ailleurs. Et j'ai moi-même, si vous voulez, appris les langues que je ne connaissais pas. Au départ, c'était l'Allemagne. Ensuite, j'ai vécu en France dans les familles d'accueil. Et après, je suis allée rechercher d'une part ma famille, que j'ai malheureusement pas vraiment trouvée. Mais j'ai vécu dans ces pays-là et je parle les langues, je les écris, je les lis. Donc ça aussi, c'est un travail perso. Et ça m'a permis de m'imprégner justement de l'origine de mes parents.
Vos parents étaient originaires d'où, vous me l'avez dit, non?
Non, pas encore, mais j'y viens. C'est bien de vous poser des questions, parce que sinon je m'éparpille peut-être un peu.
Non, pas
maman,
du tout.
Ma maman était allemande et mon père était du Maroc espagnol.
D'accord.
Le détroit de Gibraltar. Donc trois pays, trois cultures très intéressantes. Et mais moi quand même débarquer en France. Pourquoi? Parce que étant née en France et mes parents s'étant mariés en France, bien j'étais française d'office. C'est pour ça que dans un premier temps, mes 10 premières années, je les ai passées en Allemagne, puisque ma mère m'a laissée là-bas. Et donc à 10 ans, bon bah, il se trouve qu'en plus j'étais hyperactive, c'est vrai. C'est un bagage qui est souvent considéré comme négatif, mais qui n'est pas du tout négatif, bien au contraire. Il suffit bon de comment d'essayer de comprendre. Avant, on considérait les hyperactifs comme des enfants nerveux, on les tapait, on les punissait à tout va. Ouais. Et c'est pas la solution, c'est pas ça la solution. La solution, c'est quand on a en face de soi quelqu'un qui est peut-être un peu différent, et ben de peut-être s'y intéresser, ou alors carrément de tourner la tête et d'aller voir ailleurs, mais pas de se braquer, de casser. J'ai été beaucoup cassée dans ma vie. C'est par rapport à ça, justement. Mais ça aussi, ça a été un travail pour moi. C'est accepter l'autre, mais pas toujours avoir été acceptée comme j'étais moi. Et à force d'apprendre dans la vie, eh bien, on se dit, il n'y a pas de raison. On est tous faits pour vivre les uns avec les autres. Pas de race, pas de différence, pas de... Les différences, justement, elles sont là et elles sont riches. Elles nous apportent énormément. Là où je voulais en venir surtout ce soir, c'est de faire comprendre que malgré toutes les embûches qu'on peut avoir et malgré ce virus qui nous embête depuis le printemps dernier, il faut continuer à y croire. Je pense que pour le virus, je fais juste une parenthèse, je crois qu'il va falloir qu'on vive avec. On ne pourra plus s'en débarrasser, on ne sera plus jamais comme avant. D'abord parce que nous-mêmes, on s'est tous transformés par rapport au confinement, par rapport aux astreintes qu'on a eues par le gouvernement, par rapport à ces difficultés, ces éloignements physiques, plus de bisous, plus de câlins, plus rien. Mais les yeux, la bouche, le nez, les oreilles, nos sens, je pense que nos sens se sont sûrement développés quelque part. Et ce qu'on a eu avant, ça ne sera pas remplacé, mais ça sera, on va dire, un peu détourné. Mais rien ne nous empêche d'aimer les autres quand même.
Oui, mais en fait, par rapport à l'époque que l'on vit, ça nous a rapprochés pour certains.
Ça nous a tous
éloignés pour d'autres. Mais vous êtes persuadé que l'on vivra toujours comme ça, maintenant ?
Peut-être pas toujours, mais je pense que là, on va peut-être sortir du confinement. Mais moi, je n'exclus pas déjà, et on en parle d'ailleurs dans la presse déjà. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, vous êtes en plein dedans, Olivier. On parle quand même déjà d'une troisième vague. Alors, j'espère qu'il n'y en aura pas, bien sûr que j'espère, parce que j'y crois, j'ai la foi. Il faut déjà avoir la foi aussi. Il faut croire en soi déjà avant tout pour pouvoir avancer. Parce que si on n'a pas la foi pour soi, comment voulez-vous qu'on l'ait pour les autres ? Ce n'est pas possible. Et c'est une foi qui est certes religieuse en partie, mais c'est une foi, c'est une confiance en soi avant tout. C'est parce qu'on a confiance en soi qu'on réalise des choses. C'est parce qu'on a envie de partager des choses qu'on fait des choses avec des autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, c'est sûr que mon enfance, je l'ai passée en communauté. Donc forcément, ce n'est pas dans un foyer avec papa, maman, peut-être des frères et sœurs, ou enfants uniques. Mais comme je disais tout à l'heure à Natacha, qui est d'ailleurs une excellente collaboratrice, je pense, pour vous, comme tout le reste de l'équipe d'ailleurs, je disais que la foi, elle peut avoir été religieuse pour moi, puisque j'ai grandi dans un milieu catholique, mais je ne suis plus catholique. En fait, j'ai pris un peu de toutes les religions et j'en ai fait ma sauce personnelle.
Oui, je vous écoute. Allô, je vous écoute, Lola.
Parce que mais je pensais que vous aviez quelque chose à répliquer.
Non, je vous écoute, en fait.
Oui, j'en ai fait ma sauce personnelle, ce qui ne veut pas dire. Oui. Comment dire ? J'ai été pendant 10 ans catholique, obligée, parce que c'était des franciscaines en Allemagne. Donc,
mais à l'école, vous étiez à l'école chez les franciscaines ?
Dans un couvent.
Oui.
Dans un couvent. Non, internat.
Internat, d'accord.
C'est un orphelinat, on va dire, plutôt. Voilà. Mais j'ai jamais négativisé ça. C'est sûr qu'il y a des moments où on se dit « Ah oui, j'aurais bien voulu avoir un papa, un maman. » Moi, mes premiers mots, ça n'a jamais été papa, maman. Mais ça ne m'a pas empêché d'évoluer. Et même si je n'ai pas fait d'études, ça m'a beaucoup frustrée d'ailleurs, parce que j'ai toujours été envieuse de ceux qui avaient le bac, en me disant « Mince, je ne l'ai pas eu, moi. Je n'ai pas pu. » Parce que je me suis retrouvée très vite dans la vie active. Mais ça a été mon refuge, ça, la vie active. Mon boulot, mes boulots, puisque j'ai évolué aussi. J'ai commencé, je vous le disais, dans une famille bourgeoise. Ensuite, j'ai quitté cette région-là, proche de l'Allemagne, pour venir un peu plus dans l'Est, vers Strasbourg. Et c'est bizarre parce que j'ai quitté beaucoup de fois Strasbourg pour 3 mois, 6 mois, 5 ans. Et j'y suis toujours revenue. C'est un peu ma ville d'attache. Et pourtant, j'y ai pas grandi. Vous voyez ? Et les religions, oui, bon, je crois que bon, quand on est catholique ou qu'on est protestant et qu'on y tient, ou quelle que soit la religion, c'est parce que peut-être les gens qui le sont toute leur vie, ils ont leur repère pour avoir été fidèles comme ça.
Oui,
vous voyez,
parce qu'ils ont appris
moi,
à travers une religion, mais vous avez eu quand même les franciscaines comme base.
Fidèle.
Vous n'avez pas pu être fidèle,
oui,
pourquoi alors, exactement?
Eh bien, parce que je crois que tous mes passages dans ma vie, que ce soit dans les pays dans lesquels j'ai vécu ou les professions que j'ai faites, que j'ai pratiquées, je me suis intéressée à d'autres religions pour voir ce qui se passait ailleurs. En fait, j'ai toujours besoin de voir ce qui se passe ailleurs. Je porte toujours un intérêt à plein de choses. Je me suis développée dans l'artistique aussi, dans l'ergothérapie, par exemple, pour les enfants, pour les personnes âgées. Je pratique l'aide à la personne. Je m'occupe d'enfants handicapés, justement dans des ateliers où on fabrique des calendriers et plein de petites choses qu'on vend comme ça autour des fêtes de fin d'année, et même toute l'année. Il y a des entreprises qui nous achètent des cadeaux toute l'année. Vous voyez ?
Oui.
J'ai toujours bougé. C'est pas que je me lasse de là où je suis, mais je suis pas quelqu'un qui est capable de rester 20 ans dans la même entreprise et à faire la même chose. C'est pas possible. C'est impossible pour moi. Dès l'instant où j'ai à peu près, on va dire, ma formation et mon développement de cette formation, je passe à autre chose. Mais je néglige pas le reste pour autant. Vous voyez ?
Ouais, vous avez besoin
d'évoluer.
Vous avez besoin de vous renouveler. En permanence.
En permanence. Ou alors, en plus de mon activité, d'avoir des loisirs différents. Alors, c'est vrai que le tennis, j'en ai jamais fait, mais j'ai fait de la moto en échange. J'ai partagé beaucoup de choses avec des enfants et avec des personnes âgées. Parce que moi-même, étant vraiment très imprégnée par l'ergothérapie, j'avais envie de la faire découvrir aux autres. Je ne l'ai pas gardée que pour moi. Je n'ai pas fabriqué des choses seules. J'ai transmis. Au même titre que quand je lis des livres, je les lis pour les enregistrer pour les malvoyants, les non-voyants et les malvoyants. Mais c'est bénévole, vous voyez ? Il y a beaucoup de choses que je fais bénévolement, mais en même temps, je sais que je vais apporter quelque chose, je donne quelque chose, j'ai besoin de donner. J'ai besoin de donner tout ce qu'on m'a pris.
Et donc, sur foi de cette énergie, en fait, vous avez, je crois, un projet aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, c'est vrai, je suis contente parce que je me suis toujours dit un jour, je partirai en humanitaire. Mmh. Et là, je suis contente parce que depuis quelques mois, je pense que le Covid a peut-être contribué à l'avancée de ce travail. Je prépare mon départ pour l'Amérique latine, pour m'occuper, c'est déjà en place quasiment. Il n'y a plus qu'à déconfiner, on va dire, presque. Il y a beaucoup d'enfants dans la rue en Amérique latine. Je connais un peu le sujet parce que j'ai des amis en Argentine et en Colombie. Et les familles sont nombreuses souvent là-bas. Et quand les familles n'ont plus les moyens de nourrir leurs enfants, elles les mettent dans la rue. Alors, soit ils sont délinquants, voués à eux-mêmes, soit ils peuvent être pris en charge par des membres de la famille. Ça peut être une tante, un oncle, un cousin, une grand-mère. Peu importe. L'essentiel, c'est qu'ils aient un toit et de la nourriture pour vivre. Mais l'organisme que je vais rejoindre s'occupe des enfants de la rue, quel que soit leur âge, jusqu'à ce qu'ils soient en mesure d'être aptes à vivre seuls. On les récupère de la rue, on vit avec eux dans des foyers, on construit des foyers, des écoles, il y a des éducateurs. Ce sont que des professionnels, des éducateurs qui leur apprennent tout ce qu'il faut pour qu'ils aient le bagage essentiel pour croire déjà, pour avoir une foi, pour avoir de l'espoir et pour se rendre compte que la vie finalement c'est pas la rue et les déchetteries pour se nourrir. C'est comme ça qu'ils vivent malheureusement.
Oui.
Et c'est une mission qui est intéressante pour moi parce que côté enfant, je n'ai eu qu'un fils qui se débrouille très bien, tant mieux, il est heureux. Voilà, ma mission de ce côté-là est résolue. Et je n'ai eu qu'un fils parce que je n'ai pas eu la chance d'en avoir plus, mais je voulais déjà me prouver à moi-même que je ne ferais pas ce que ma mère m'a fait, c'est-à-dire m'abandonner.
Vous savez pourquoi aujourd'hui elle vous a abandonné, cette maman ?
Elle a été très malheureuse. Mmh. Elle a été très malheureuse, très amoureuse de son mari. Lui était volage, papillon. Elle a eu beaucoup d'enfants. Elle n'en a pas élevé beaucoup, mais elle a beaucoup souffert. Elle-même, j'ai fait mon enquête là-dessus. Elle était elle-même cadette d'une famille de 10, donc elle a élevé les 8 autres. Et elle n'a pas été dans les normes quant à sa vie privée. C'est pour ça que même du côté parentale de son côté à elle, elle n'a eu aucun soutien quand elle-même était en détresse. Et c'est pour ça que je me suis retrouvée moi-même dans cette situation. Si sa mère avait dit « oui, je la garde pendant que tu travailles », la vie aurait été totalement différente pour moi. Mais ça n'a pas été le cas parce qu'elle n'a pas épousé un Allemand. Elle a épousé un étranger.
Oui.
Et donc, elle était cataloguée pour sa mère, qui était vraiment très... très rigoureuse. Bon, ben, les Allemands, déjà, sont rigoureux, ça, c'est bien. C'est ce qui est un peu leur force dans le travail, puisque j'ai aussi vécu en Allemagne, j'ai travaillé avec eux. Il y a une rigueur en Allemagne qu'on n'a pas en France. En France, on est latin, on est plus souple, parfois même trop laxiste dans certains domaines. Ce qui est pas... Je critique pas, c'est un constat. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord avec les Français, puisque je suis française à la base quand même, pour y avoir vécu quand même une grande partie de ma vie. Vous voyez ?
Oui, ouais, je vois. Et donc, du coup, ce projet humanitaire, vous l'avez monté comment exactement ?
Eh bien, j'ai observé en allant voir mes amis à deux reprises, et je me suis intéressée au pays. Alors, quand je m'intéresse à un pays, je l'étudie quasiment par cœur, on va le dire. Je vais déjà savoir combien il y a d'habitants, quelles sont les coutumes, les us et coutumes, quelles sont les traditions. Je vais m'intéresser à la cuisine aussi pour pouvoir faire des recettes. Je passe par toutes les étapes, en fait. Mmh. Et je découvre que, justement, sur le plan social, il y a des choses à faire en France. Hein. On n'est même pas obligé de faire de l'humanitaire à l'étranger. Hein. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, avec le Covid, il y a suffisamment à faire en France. Ce qui ne veut pas dire que je vais y rester, moi, en Amérique latine. Je reviendrai peut-être en France encore plus, avec plus de bagages sociaux. Et peut-être que je ferai la fin de ma vie en France. Je ne sais pas. On ne sait jamais, comme on ne sait pas à quel moment on va partir, à quel moment sonnera notre heure. Voilà, je veux encore faire cette expérience, mais je resterai dans le social. De toute façon, j'étais dans le commercial à un moment donné, pendant pas mal d'années. Et on ne va pas dire que j'ai déchanté, mais j'ai tourné un petit peu j'ai tourné un peu ma vision des choses vers le social. Et après, je me suis carrément imprégnée du social. Et maintenant, je ne fais plus que ça. D'ailleurs, mon fils m'appelle Mère Teresa. C'est pas pour rien.
Ah oui ?
Une parenthèse. Oui, 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 oui. Non, parce que lui, c'est un homme d'affaires. Donc, on n'est pas d'accord du tout.
Et vous allez le mettre en route quand, ce projet ? En fait, vous allez
partir vivre là-bas ? Pour la rentrée. Oui, 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 ça va être sur place, bien sûr. Oui, c'est les humanitaires, si vous voulez vraiment être utile à fond, il faut être sur place. Hein. Je reviendrai que si ma santé ne le permettait plus, quoi.
Mais vous montez ça à partir de vos fonds à vous aussi ?
Non, 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 non. Non, non, je vais intégrer un groupe qui est déjà en place. On peut le comparer quasiment à la Croix-Rouge. Hein.
D'accord, donc c'est un gros groupe humanitaire que vous intégrez.
C'est un réseau. Oui, 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 c'est un réseau qui existe déjà depuis des années, comme d'autres réseaux existent en Afrique par les églises. Il y a énormément d'églises qui interviennent un peu partout dans les pays. Il y a aussi, même en Amérique du Sud, pour ne citer que Caritas ou des choses comme ça, enfin, je ne les ai pas tous en tête, mais il y a énormément de religions et d'églises qui partagent énormément des choses. Il y a des associations qui créent et qui développent, par exemple, des envois de transport de fringues, de chaussures, de médicaments, d'ustensiles pour la scolarité. Il y a des trucs, des paquebots complets qui partent comme ça. Mmh. Avec des le mot m'échappe, en fait, des containers, voilà.
Oui, des containers.
Il y a énormément d'associations, voilà. Il y a énormément d'associations qui, dans les pays développés, qui envoient aux pays sous-développés, et tant mieux. Et d'ailleurs, mais ça ne se fait pas assez encore. Ça ne suffit toujours pas. Hein. Et c'est là que moi, par exemple, pour faire une suggestion aux étudiants qui dépriment et qui n'ont même pas la chance de pouvoir être vus par des psychologues ou psychiatres parce qu'ils sont tous débordés, moi, je pense qu'ils peuvent, on va dire, s'auto-aider en faisant peut-être des actions. Elles peuvent être soit bénévoles, s'ils n'ont pas, ou alors peut-être même avec des organismes qui donnent des petits revenus suffisamment pour pouvoir vivre et manger, mais en même temps qui font des actions. Il y a toujours moyen. Il existe énormément de choses. Il suffit de chercher, Olivier. Et en plus, aujourd'hui, on est quand même vachement aidé avec Internet. On a tout à portée de main. On n'avait pas ça il y a 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mmh. Il n'y avait pas ça. Donc, c'était beaucoup plus long dans les recherches. Ça prenait beaucoup plus de temps. Là, on a tout pratiquement à la minute. C'est ça qui est fou. On est dans le monde entier. En restant sur place, on clique et on y est. Donc, tout est à portée de main. Il faut profiter de ça. Bon, bien sûr, les personnes d'un certain âge disent « Oui, ça va trop vite, la technologie, on n'arrive pas à suivre ». Moi, je connais des papis, des mamies qui ont 75, 80 et qui sont sur les ordi et qui sont sur Internet.
Bah, oui, il y en a. Heureusement qu'il y en a. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes âgées aujourd'hui se sont mis à l'heure du net.
Oui.
Bah, c'est arrivé depuis une quinzaine d'années maintenant. Donc,
voilà, c'est ça.
Certains avaient 60, 65 ans, 70 ans quand c'est arrivé. Et s'ils sont collés tout de suite. Je pense que ça a été plus dur ensuite pour ceux qui n'avaient pas pris le train en marche. Mais bon.
Là, oui, mais il y a quand même des enfants souvent et des petits-enfants. Pourquoi est-ce qu'ils ne passaient pas un peu de temps avec eux pour, parce que bon, les grands-parents, on les voit, certes, on les voit pour les petits gâteaux pour Noël, on les voit pour déjeuner le week-end, on les voit parfois peut-être même en vacances. Mais il n'y a pas beaucoup de couples qui emmènent papa et maman avec les petits-enfants en vacances. En principe, ils partent eux-mêmes avec leurs enfants. Ou alors, ils donnent les enfants aux grands-parents parce que ça les arrange pour partir eux seuls. C'est bien, c'est une formule. Mais pourquoi pas formuler un peu plus familialement je ne sais pas, en visio maintenant en plus, parce que tout se fait en visio. Donc, tant mieux, on voit la grand-mère. Pourquoi le petit-fils qui a maintenant 18, 20 ans, 25 ans pourrait pas se prendre une heure ou deux ou trois dans la semaine ou le week-end pour papoter avec papy et mamie et leur expliquer par exemple à distance comment se servir d'un ordinateur. C'est tout à fait faisable. On apprend tout. On fait toutes les formations en visio. Moi, j'ai beaucoup appris en visio. Tout se fait en visio maintenant.
Oui, c'est vrai, vous avez raison.
Et on a appris avec le confinement, justement. C'est pour ça, le confinement, moi, je ne considère pas ça du tout comme un isolement. Moi, je pense que c'est un temps qui nous est accordé et qu'il faut surtout l'enrichir avec des recherches, avec des occupations. Regardez le problème des parents maintenant qui travaillent à domicile. Bien sûr que ce n'est pas facile pour eux parce qu'ils ont les enfants, soit qu'ils sont tout le temps sur la console ou la télé, ça c'est pas bon, faut limiter ça. Mais qu'est-ce qui les empêche de les brancher par exemple avec des ergothérapeutes, avec même de ceux qui sont en formation en ergothérapie, ou des artistes, ou des il y a toutes sortes de gens qui sont capables de révéler des choses. On a bien toujours considéré que les grands-parents transmettaient aux enfants, qui eux transmettaient à leurs enfants.
Exactement.
Et pourquoi est-ce qu'il faut attendre une génération pour transmettre? Pourquoi les arrière-grands-parents peuvent encore transmettre aux arrière-petits-enfants? Voilà. Et là, on arrive à une saison qui est magnifique. C'est le printemps, l'été. Les étudiants qui veulent gagner un peu d'argent, pourquoi ils ne feraient pas un petit séjour le week-end chez les agriculteurs qui sont débordés? de boulot et qui ne trouvent pas de main-d'œuvre. Il faut savoir que les pays de l'Est, pour l'instant, à cause du confinement, ne peuvent pas venir en France pour aider, justement.
Il va y avoir pas mal de travail cet été, oui.
Bah, enfin, à partir du mois de juin. Il y a les asperges qui arrivent. Il y a les fraises, les asperges. Il y a tout le boulot des fruits à cueillir, des légumes à sortir des champs. Mm-hmm. Et tout ça, c'est des gens de l'Est ou d'ailleurs qui font ça d'habitude.
Qui le faisaient avant. En tout cas, on espère...
Alors maintenant, il y a du boulot pour tout le monde en France, là. Il faut en profiter.
Mais je pense qu'ils vont en profiter, ma chère Lola. En tout cas, je vous souhaite bon courage pour votre projet humanitaire. Vous ne manquerez pas de nous tenir au courant une fois que vous serez sur place.
Sans problème.
Et puis, vous donnerez une raccroche. Je ne sais pas, vous pouvez donner d'ores et déjà le nom de l'organisation qui vous accueille. Et comme ça, on pourra mettre ça sur notre groupe de parole Facebook. D'accord ?
Entendu, Olivier. Merci
beaucoup. Je vous embrasse, Lola. Au revoir.
Très bonne nuit. Au revoir.